Arrivé à l'instant de Michael Ponche pour le journal d'Haïti, les Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 8h10 à Port-au-Prince et à Lima. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Un meurtre de plus, un meurtre de trop. Haïti gangréné par la violence. On revient sur l'assassinat il y a 15 jours d'Evelyne Sincère, jeune étudiante à Port-au-Prince. La rue péruvienne, toujours mobilisée après la destitution du président Vizcarra. C'est à la une de la presse des Amériques. Quand les journaux des États-Unis, eux, font leur gros titre sur l'absence de preuves, il n'y a pas eu de fraude lors du scrutin présidentiel. Et puis nous irons au Québec goûter le vin local, un cru 2020 particulièrement abondant.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Son enlèvement et son meurtre ont choqué la population haïtienne. Fin octobre, Evelyne Sincère, jeune étudiante de 22 ans, est enlevée à Port-au-Prince. Son corps sera retrouvé 3 jours plus tard sur un amas de détritus. 3 hommes viennent d'être arrêtés. Ils ont reconnu le crime. Un de plus dans un pays en proie aux violences. Un de trop peut-être aussi. Alors que le climat sécuritaire ne cesse de se dégrader en Haïti, comme en témoigne Marie-Rosie Auguste du Sénat du Réseau National de Défense des Droits Humains. Elle est au micro RFI de notre correspondante Amélie Baron.
Cette situation préoccupante se caractérise par des assassinats spectaculaires, des enlèvements suivis de séquestrations contre rançon, des courses-poursuites en pleine rue, surtout à l'encontre de personnes en provenance des institutions bancaires. Et elle se manifeste aussi par tous autres cas attentatoires aux vies et aux biens. C'est vrai qu'il y a plusieurs organisations qui tentent de recueillir des informations. Cependant, on ne peut pas considérer que ces informations-là recueillies par ces organisations puissent refléter la situation générale. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que chaque jour, il y a au moins un cas d'assassinat, un cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon qui sont recensés un peu partout dans le pays.
Face à ces crimes, les organisations de la société civile ne peuvent que déplorer la faiblesse de la PNH, la police nationale haïtienne.
La première impression que donne l'institution policière face à cette situation, c'est qu'elle est dépassée par les événements et qu'elle ne dispose d'aucun plan national de sécurisation du territoire. Nous-mêmes, au niveau du RNDDH, nous considérons qu'en fait, la cause profonde de cette insécurité réside dans le choix d'une mauvaise politique mise en œuvre par les autorités actuelles en matière de sécurité. Le résultat est donc ce que nous avons aujourd'hui. Une coalition de gangs armés beaucoup plus puissante que la force de police nationale elle-même appelée à protéger les vies et les biens.
Ironie du sort, le chef de gang surnommé Barbecue s'est filmé avec le présumé meurtrier de la lycéenne Evelyne Sincère qu'il venait, selon lui, d'arrêter. Et ce sont ses hommes de main qui l'ont ensuite déposé dans un commissariat de la capitale.
Ce cas-là, pour nous, peut être considéré comme l'un des nombreux exemples qui peuvent être pris pour prouver que l'institution policière est aujourd'hui très instrumentalisé, dans la mesure où, dans la vidéo qui circulait justement, Jimmy Cherizier alias Barbecue a fait état de ses liens avec la direction centrale de la police judiciaire. Et deuxièmement, c'est un cas qui nous montre jusqu'à quel point cette police, elle est affaiblie et aussi que les gangs armés sont très puissants aujourd'hui dans le pays.
Car Barbecue est l'objet d'un avis de recherche depuis février 2019, notamment pour son rôle dans le massacre de la Saline. Aujourd'hui 13 novembre, cela fait 2 ans que l'attaque a été menée contre ce quartier pauvre. Des dizaines de personnes ont été tuées, des femmes ont subi des viols collectifs. Tous ces crimes ont été commis pendant plus de 14 heures. Et si à l'époque la police pourtant présente tout autour du quartier n'était jamais intervenue, aujourd'hui l'appareil judiciaire est tout aussi inactif, ce qui renforce le sentiment d'impunité.
Sur le plan de la justice, il n'y a rien à retenir, sinon que le dossier stagne et que les autorités judiciaires jusqu'à date n'ont envoyé aucun message rassurant aux survivants, leur laissant croire que par leur travail, un jour, justice sera rendue aux victimes non seulement de ce massacre qui a été perpétré le 13 novembre 2018, mais aussi aux victimes de toutes ces autres attaques qui ont été enregistrées au cours de l'année 2019.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
8h14 à Port-au-Prince comme à Washington. Les États-Unis à la une de la revue de presse des Amériques. Aujourd'hui encore, bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
On commence avec le démenti des responsables électoraux. Non, il n'y a pas eu de fraude lors du scrutin aux États-Unis. Au contraire, ça a même été l'élection la plus sûre du pays.
Oui, ces déclarations font la une du New York Times ce matin et ce sont des membres des autorités locales et nationales en charge de la sécurité du scrutin qui l'affirment, parmi lesquels figure notamment l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Alors même si elles ne sont pas directement adressées à Donald Trump, ces déclarations démontrent la théorie d'une fraude massive, estime le quotidien, car elles proviennent d'agences qui sont gérées par le cabinet de Donald Trump et ne peuvent donc pas être remises en cause.
Lâchez donc l'affaire, monsieur Trump. C'est en quelque sorte le message adressé par Mike Schumer au camp républicain. Écoutez le chef de la minorité démocrate au Sénat.
Les élections ont suscité des divisions et un combat difficile, mais au lieu de travailler à rassembler le pays pour combattre notre ennemi commun, le Covid-19, les républicains du Congrès répandent des théories conspirationnistes, nient la réalité et empoisonnent le puits de notre démocratie. Les républicains devraient cesser leur manigance autour d'une élection que le président Trump a déjà perdue, concentrer leur attention sur le problème immédiat qui se pose, procurer de l'aide à un pays qui traverse une crise sanitaire et économique du fait du Covid. Quant aux élections, les républicains, leurs élus au Congrès, n'ont pas les preuves, pas le moindre élément, ni le président. Les faits sont là, Biden a gagné. Il n'y a rien que les républicains ou le président ne puissent faire pour changer cela. Les élus républicains du Congrès sèment délibérément le doute sur nos élections pour aucune autre raison que leur peur de Donald Trump.
Et la presse romaine, elle aussi, estime que ces accusations sans fondement sur d'éventuelles fraudes mettent à mal la démocratie américaine.
Oui, c'est en tout cas ce que pense USA Today. Hein. Mais pour le quotidien, le fait que des juges fédéraux rejettent pour l'instant les demandes des avocats de Donald Trump prouve que la démocratie américaine fonctionne. Certes, si d'aventure des juges annulaient des votes, cela pourrait bien marquer une rupture. Mais pour l'instant, les garde-fous résistent. Il faudra scruter l'évolution de la situation dans le Michigan et en Arizona, prévient le quotidien. Deux États où énormément de plaintes ont été déposées, selon USA Today.
Deux États remportés par Joe Biden, Romain, et le candidat démocrate a encore accentué son avance la nuit dernière en remportant l'Arizona, selon certains médias.
Oui, ce qui marquerait une première victoire démocrate dans cet État depuis 1996. Alors, si certains médias donnent Joe Biden vainqueur, d'autres parlent d'une avance impossible à rattraper pour Donald Trump. C'est le cas de l'Arizona Daily Star. Selon ce quotidien, le candidat démocrate dispose d'une avance de 11 400 voix, alors qu'il n'en reste plus que 10 500 à dépouiller. C'est donc bien une victoire qui se dessine en Arizona, comme le détaille le quotidien Arizona Republic. Une victoire qui donnerait 11 grands électeurs supplémentaires à Joe Biden, portant ainsi son total à 290 grands électeurs, sachant que 270 sont nécessaires pour être élus. Un résultat qui a peut-être convaincu d'ailleurs la Chine de la victoire du candidat démocrate, puisque comme l'annonce USA Today, la Chine a félicité ce matin Joe Biden pour son élection.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
À la une aujourd'hui encore, le Pérou, trois jours après avoir été destitué, l'ex-président Martin Vizcarra a mis en cause une nouvelle fois hier la légitimité du nouveau pouvoir incarné par le président intérimaire Manuel Merino, tandis que des milliers de manifestants dans tout le pays continuent d'exprimer leur opposition à ce qu'ils voient comme un coup d'État. Vilhoen Munoz Boileau est à Lima pour RFI.
Merino, escucha!
Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés place San Martín dans le centre historique de Lima hier pour réclamer le départ de Manuel Merino, le président péruvien par intérim. Cette jeune femme l'accuse d'être à l'origine d'un coup d'État.
Manuel Merino et sa clique ont destitué le président pour prendre le pouvoir et servir leurs propres intérêts. Cette destitution n'est pas une décision du peuple, c'est une décision autoritaire.
Les étudiants comme elle sont particulièrement mobilisés car ce nouveau président et son gouvernement veulent s'attaquer à l'université, comme l'explique Roberto, 18 ans.
Ils veulent supprimer l'instance qui garantit la qualité de l'enseignement supérieur car certains membres du nouveau gouvernement sont propriétaires d'universités privées à qui on a retiré la licence.
Malgré la pandémie, les plus âgés, eux aussi, se sont mobilisés. Une mobilisation historique, selon ce retraité venu manifester avec sa compagne.
On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis 20 ans. Les gens sont en colère et on va continuer à manifester jusqu'à ce que Merino quitte le pouvoir.
Signe de leur détermination, à plusieurs reprises, les manifestants ont repris ce slogan des révoltes latino-américaines. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Dans la soirée, la manifestation pourtant pacifique a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, obligeant les manifestants à se disperser. Vilhoen Munoz Boileau, Lima, RFI.
Romain, on vient de l'entendre, hein, les forces de l'ordre ont durement réprimé cette manifestation, des faits dénoncés par le président démis de ses fonctions, Martin Vizcarra.
Oui, dans les pages de Perú 21, Martín Vizcarra lance un appel aux forces de l'ordre afin qu'elles respectent le droit à manifester. Mais le mal est fait, estime le quotidien. Hier, la police n'a pas hésité à faire usage de cartouches de chevrotine, comme ont pu le constater différents médias. Le nouveau ministre de l'Intérieur a beau démentir les faits, les images parlent d'elles-mêmes, estime le quotidien. La situation est grave, explique Mario Vargas Llosa dans les pages de La República. Pour le prix Nobel de littérature, c'est bien un coup d'État qui a été perpétré au Pérou, une violation de la Constitution orchestrée par Manuel Merino, le nouveau président, qui n'est même pas reconnu par les autres pays de la région, détaille Mario Vargas Llosa. Une situation tendue qui risque de perdurer puisque d'autres manifestations sont prévues, notamment aujourd'hui, annonce El Comercio.
Et on termine par le Mexique, Romain, pays également touché par la pandémie de Covid, avec plus de 90 000 morts. Selon la presse mexicaine, les autorités ne comptent pas acheter tout de suite, s'ils voient le jour, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, celui qui a été présenté cette semaine comme efficace à 90%, faute d'infrastructures.
Oui, c'est le sous-secrétaire à la santé qui l'a annoncé hier selon El Universal. Bien qu'une lettre d'intention ait été signée, les autorités du pays ne sont pas en mesure de conserver ce vaccin si d'aventure il venait à être livré. Le Mexique ne dispose pas d'un réseau d'ultra-congélation, explique-t-il. Or, ce vaccin ne peut être conservé qu'à une température de moins 80 degrés. Et il n'y a pas que le Mexique qui va devoir faire face à ce problème. Selon lui, même les États-Unis ne pourront pas le conserver, explique-t-il. Ce qui ne devrait pas être un problème avec le vaccin développé par l'entreprise AstraZeneca en collaboration avec l'université d'Oxford, puisqu'il s'agirait là d'un vaccin de type traditionnel, selon la Jornada, un vaccin qui sera commandé par les autorités mexicaines, annonce le quotidien.
Romain Le Maresquier, et je me corrige, hein, le chef de file des démocrates au Sénat américain, il s'appelle bien Chuck Schumer et non pas Mike. Merci Romain. Un peu de vent, il est peut-être un peu tôt, mais sait-on jamais. Ça vous tente? Pas du vin français, pas du vin californien, non. Du vin québécois, s'il vous plaît. La cuvée 2020 s'annonce exceptionnelle, du fait notamment du degré de maturité des raisins. Et si la production locale au Québec ne constitue qu'une infime goutte dans les verres des habitants de la province, 1% seulement des ventes totales, les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la vigne de chez eux. Pascal Guéricola a assisté au dernier jour de vendange près de Québec.
Ils sont bons. Ils sont sucrés, ils sont juste à point. Hein.
Les fruits sucrés dont parle ce vendangeur, ce sont les raisins du domaine de l'Ange Gardien. Chaque automne, ce septuagénaire s'installe avec son sécateur à l'ombre des vignes.
C'est l'abondance des fruits, l'abondance de la nature, donc c'est un bonheur total. Ça va faire du bon vin. Vous viendrez goûter ça.
Un peu plus bas, Jean-Louis Crête, un des propriétaires du vignoble, s'affaire au milieu des cuves à effectuer les premières maturations.
Cette année 2020 va être remarquable parce que l'été a été très très chaud. On a pu commencer à récolter nos raisins, je dirais à peu près en moyenne 2 semaines d'avance. Ça nous donne une pleine maturité des 11-12% d'alcool, même 13% d'alcool naturel.
Contrairement aux autres années, les viticulteurs n'auront pas à ajouter beaucoup de sucre pour obtenir le taux d'alcool nécessaire pour la cuvée 2020. Depuis plus d'une décennie, les méthodes de vinification s'affinent. Les spécialistes ont appris à combiner différents cépages résistants au froid pour produire un vin local unique. À nouveau, Jean-Louis Crête.
En Europe, comme les cépages sont plus connus, on sait qu'on peut garder les pépins, on sait qu'on va aller en barrique, on sait. Ici, il faut l'apprendre en fonction de chacun des plants, des types de cépages qu'on a. Et c'est ce qu'on a appris, comme par exemple sur le radisson, qui est un cépage qui est un hybride américain. On y va en rosé, sans exposition sur les pots. Alors donc, c'est ces choses-là qu'il faut apprendre avec chacun des cépages pour en tirer le meilleur parti.
Ben, je suis curieuse aussi, le rouge, j'avais déjà goûté au blanc.
Dans la boutique toute proche, une cliente déguste des crus primés.
Je me souviens plus quel.
Le rouge, là, en fait, il va faire penser peut-être à un style... Pinot noir, dans le sens que les tanins sont très souples. Puis,
Depuis le premier confinement, les vignobles vendent beaucoup plus de bouteilles à une clientèle locale. Comme l'explique Lynn Leclerc, les Québécois découvrent les crus proches de chez eux.
Les gens viennent prendre un moment de tranquillité à la campagne, puis ils veulent découvrir quelque chose. C'est peut-être plus romantique ou instructif aussi que de simplement aller à l'épicerie, s'acheter la bouteille. Ça fait une belle sortie. Puis les gens vont visiter des vignobles quand ils partent en voyage en Europe ou en Californie, mais là, ils réalisent qu'ils peuvent le faire chez eux aussi. Alors, c'est quand même intéressant, un phénomène COVID. Il n'y a pas que des mauvais côtés pour nous.
Cet engouement pour le vin du Québec touche particulièrement les jeunes générations, comme le remarque la chroniqueuse de vin Karine Duplessis-Piché, rencontrée dans un magasin spécialisé.
Quand tu as 20 ans, puis tu commences, tu t'inities au vin, puis que les premiers vins que tu goûtes, c'est les vins du Québec, ben tu n'as pas en tête, ah, le Rhône, ah, Bordeaux. Ce que tu découvres en premier, c'est le vin du Québec. Alors, tu n'as pas d'a priori, puis ben ça te permet finalement de ne pas juger, puis de découvrir ces vins-là avec un palais neuf, j'ai envie de dire. Alors, les jeunes tombent en amour et ensuite, ben ils reviennent. Hein. C'est sûr, pour eux, c'est ce que ça goûte, le vin.
Il faudra patienter encore quelques mois pour déguster le cru 2020 qui s'annonce hors norme. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et on en veut bien une bouteille, Pascal Guéricola, ici à Paris. Hein. Pensez à l'envoi, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Un peu de sérieux, bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
À la une de votre journal des Outre-mer, le carnaval 2021 en Guadeloupe passe à la trappe. La décision du préfet sème la consternation.
Oui, consternation du grand public, évidemment, tout d'abord, privé de sa fête ancestrale, et puis, et peut-être surtout, consternation des associations carnavalesques qui ont vu en un instant s'écrouler le travail d'une année. À Basse-Terre, la correspondance de Ronan Poney.
Toutes ces associations vivent des cotisations de leurs membres et ceux qui composent ces associations populaires ne sont souvent pas riches. Alors, on complète bien sûr avec des subventions municipales et cette année 2021, il n'y aura donc aucune raison de demander des subventions. Pas de carnaval. Une catastrophe financière qui se dessine pour les assos. Les costumes coûtent cher aussi dans les groupes à costumes de 600 à 900 euros pièce. Le carnaval est donc une activité artisanale intense toute l'année. Et même le jour de la grande parade du Mardi Gras ici à Basse-Terre, dans les flonflons des musiques, les familles qui proposent les sandwichs, les grillades, les sodas glacés, les bonbons, des petits jobs qui rapportent et qui font des fins de mois plus confortables. Pas de carnaval, pas de revenus pour les food trucks également. Les communes ne pourront pas payer, leurs finances sont exsangues. C'est donc à la République de considérer les associations carnavalesques comme étant des structures inévitables, vivantes, de la société guadeloupéenne et de leur tendre la main.
On reste en Guadeloupe avec les travaux de réfection des réseaux d'eau potable, travaux d'Hercule, travaux visités hier à Goyave, dans le sud-est de la Basse-Terre, par le préfet Alexandre Houda.
Dans la zone de Fortil à Goyave, ce stabilisateur de pression flambant neuf permettra de fluidifier la circulation de l'eau. Des travaux nécessaires qui s'additionnent aux opérations prioritaires, à savoir réparer les innombrables fuites du réseau. Cyril Hamouda, directeur délégué de Caruc Héros Suez.
On en a à ce jour réparé 2500 et il en reste pratiquement autant à faire. Et il en restera continuellement tout ce stock-là à réparer pour que le réseau maintienne sa pression.
Ces nombreux travaux entrent dans le cadre des réquisitions préfectorales. Une mesure d'urgence prise au début de la crise sanitaire afin de rétablir un service minimum sur les zones les plus impactées par les tours d'eau. Alexandre Rochat, préfet de Guadeloupe.
On progresse beaucoup dans ce sens, mais ça ne suffira pas. Il va falloir continuer évidemment à œuvrer dans ce domaine. Et puis ensuite, il faut travailler sur la gouvernance et sur le remplacement d'un certain nombre de pièces.
L'avancée des travaux se poursuit donc lentement mais sûrement. Il reste cependant encore des efforts colossaux à fournir avant d'avoir un réseau acceptable sur l'ensemble de la Guadeloupe.
Bon après-midi, bon week-end de Mickaël, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, bon week-end à vous aussi et à lundi, sauf que ce ne sera pas moi mais ce sera Anne Verdaguet que vous retrouverez pour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques lundi. Voilà, merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de ce journal d'Haïti et des Amériques. Je vous souhaite une très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.